Bonjour à toutes et à tous. Pour notre étude ce matin, nous allons prendre le psaume 51, le psaume de David 51. Je loue le Seigneur pour le thème que nous avons eu ce matin pour la pour le moment d'adoration, Dieu est notre juge. Ce n'est pas par hasard, mais Dieu l'a placé ainsi. Donc, psaume 51. Au chef de chantre, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hyssope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie que de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu du sacrifice, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir au holocauste. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Donc, comme on a vu, c'est un psaume de David. Et celui-là, et le psaume 32, c'est parmi les sept psaumes de pénitence qu'on trouve dans l'Écriture. Ce psaume a été écrit par David quand Nathan était venu à lui après avoir commis l'adultère avec Bathsheba et assassiné son mari, Uri, l'Hétien. Le Psaume 51 est une prière à Dieu qui peut être le plus grand chapitre de la Bible sur la repentance. Ce psaume est apparu à la suite du péché de David avec Bathsheba. Il a commis l'adultère, puis dans un effort pour couvrir cela, il a commis un meurtre aussi. Après un certain temps, David a été confronté à son péché par Nathan, le prophète. Ce psaume a été écrit peu après Nathan, le prophète, a dit à David, « Tu es cet homme-là qui a commis l'adultère et assassiné le mari de Bathsheba. » Ce n'est qu'après que ses péchés ont été rendus publics que David choisit de se repentir. Évidemment, il s'est repenti et voulait maintenant que Dieu le purifie de tous ses péchés et de ses iniquités et ait pitié de lui. L'histoire de tout cela peut être vue dans le 11e et le 12e chapitre du 2e livre de Samuel. Nous allons lire une petite partie de ces passages maintenant pour mieux comprendre l'arrière-plan de Psaume 51. Prenez avec moi le 2e livre de Samuel, chapitre 12. À partir des versets 7 jusqu'à 15, 2 Samuel, chapitre 12, à partir des versets 7 jusqu'à 15. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu as tué par épée des fils d'Amon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri, l'Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Verset 14, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et elle fut dangereusement malade. Et un peu plus loin, le verset 18. Le septième jour, l'enfant mourut. Le verset 20. Alors David se leva de terre et se lava, soigné, et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. C'est dans cette situation que cette psaume 51 est née. Quand David, il accepte son iniquité, il accepte son péché, il va aller dans la maison de l'Éternel, quand il prosterne devant l'Éternel, ce psaume est né. C'est pendant cette période de repentance et de la recherche de la pardon de Dieu que David écrit ce psaume. Dans ces versets, il exprime le besoin d'un croyant d'être juste avec Dieu. Un enfant de Dieu, un chrétien, il devrait être toujours juste avec Dieu. Comment c'est possible? Comment c'est possible? L'homme, il est né pécheur. Et quelqu'un s'appelle Alexandre McLaren, il a dit ainsi, l'alchimie de l'amour divin peut extraire des parfums doux de pénitence et de louange de la saleté du péché. Je le lis encore une fois. L'alchimie de l'amour divin peut extraire des parfums doux de pénitence et de louange de la saleté du péché. Dans quelle situation est le cœur brisé de David, il peut amener une somme si beau. Oui, le péché est sale. Dieu est saint et il déteste le péché. Mais notre Dieu d'amour peut faire quelque chose de très beau avec la confession sincère d'un cœur brisé. Alors, nous allons voir verset par verset. Nous allons voir si on peut lire les premiers deux versets. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Ici, David, il fait un appel à l'amour de Dieu et à la miséricorde de Dieu. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Il plaide la miséricorde selon la bonté et l'amour de Dieu. C'est un mot que nous voyons assez souvent dans la Bible, la miséricorde de Dieu, souvent dans les psaumes, et la grâce de Dieu. Et la grâce, c'est ce que Dieu nous donne, que nous, on ne mérite pas. C'est un don immérité. Et la miséricorde, quand Dieu ne donne pas ce que nous méritons. Ça, c'est la différence entre les deux mots, grâce et la miséricorde. Et ici, David, il mérite le châtiment. Mais il plaide la miséricorde selon la bonté et l'amour de Dieu. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Et deuxièmement, il implore le pardon selon les tendres miséricordes de Dieu. Et il dit que Dieu, tu es capable de me pardonner, même s'il reconnaît son péché. Mais il demande le pardon selon la tendre miséricorde de Dieu. Et troisièmement, il supplie Dieu dans le verset 2. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il supplie Dieu de le laver et de le purifier de son péché. Un homme, un enfant de Dieu, il peut tomber dans le péché, mais il faut qu'il ait ce désir de se purifier, de se laver, de ne pas rester dans le péché, de ne pas aimer le péché, mais il devrait haïr le péché, qu'il demande pardon à Dieu, il demande de le purifier, de le laver de son péché. Le verset 3 et 4, « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Nous avons vu ce matin que Dieu est le juste juge. Dieu est juste dans son jugement. Et David, il admet que son péché qui est toujours devant lui. Et le péché de David, c'était si grave, et nous ne sommes pas d'exemption quand même. Nous connaissons notre cœur, notre vie passée. Et David, il admet son péché, et il dit que son péché, il est toujours devant lui. Et il confesse qu'il a péché contre Dieu et fait le mal à sa vue. Quand on commet un péché, quand on fait le péché, premièrement, nous péchons contre Dieu. Nous péchons contre Dieu. Et si nous devrions demander c'est quoi un péché, c'est de ne pas être à l'auteur où Dieu veut que nous soyons. Tomber bas de la le niveau que Dieu veut que nous soyons. Et tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est le péché. Donc, David dit, il a péché contre lui, contre Dieu, et fait le mal à sa vue. Aujourd'hui, Satan a créé une grande confusion dans ce monde, pour demander qu'est-ce que c'est un péché. Et on relativise tout. On dit que ça, ce n'est pas un péché. Ça, c'est un péché. Et si nous allons voir les choses par rapport à notre vue, comment juger les péchés? Il faut voir comme Dieu voit les choses pour comprendre c'est quoi un péché. Et à quel degré notre péché peut faire mal à Dieu. Il dit ici que Dieu est juste et irréprochable en le jugeant. Donc David, il sait que c'est le moment où il a perdu son enfant, son fils, il est mort. Et David, il dit que Dieu est juste en le jugeant. Et quand on demande pardon à Dieu, est-ce que nous approchons Dieu avec cette attitude que Dieu sera juste? Dieu sera juste dans son jugement. Les versets 5 et 6. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ici, David, il reconnaît son état pécheureux. Et il dit qu'il est né dans l'iniquité. Il est né dans l'iniquité. Romains 5, 12 nous dit, c'est pourquoi quand par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, par le péché d'Adam et Ève, le péché, il règne dans le monde. Nous sommes tous nés dans ce monde, et nous sommes naturellement pécheurs. Mais à part que le fait que David reconnaît son péché en particulier, il dit aussi que je suis né dans le péché. Et quelqu'un qui a dit que pourquoi un chrétien il pêche? Parce que il a cette nature en lui pour commettre le péché. Pas parce qu'il pêche, on appelle un chrétien un pécheur, un homme un pécheur, mais parce que il a cette nature en lui. Et que sa mère l'a conçu dans le péché. Et David dit que, dans les versets 5 et 6, il dit que sa mère l'a conçu dans le péché. Il reconnaît la volonté de Dieu, ce que Dieu désire en lui, que Dieu veut la vérité au fond du cœur. Premièrement, il parle de sa nature, son état de pécheur, mais il reconnaît la volonté de Dieu dans sa vie, que Dieu veut la vérité au fond du cœur, que Dieu veut qu'il connaisse la sagesse au-dedans de lui. Si la sagesse de Dieu ne peut pas pénétrer notre cœur, on ne peut pas reconnaître que nous sommes des pécheurs. Il faut que la lumière de Dieu tombe dans notre cœur, puisqu'on peut comprendre qu'on est des pécheurs. Le verset 7 à 12, il parle sa prière pour le pardon et la restauration. Le verset 7, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Premièrement, ici nous remarquons qu'il prie pour le pardon de Dieu. Il prie pour le pardon de Dieu. Il lui demande de lui purifier avec l'hysope pour lui rendre pur. Nous allons voir cet matériel ou substance, l'hysope. Tournez avec moi, s'il vous plaît, à Lévitique 14. Lévitique 14. Nous allons lire les premiers 7 versets. Lévitique 14. Lévitique 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici quelle sera la loi sur le lépreux. Pour le jour de sa purification, on l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et l'examinera, le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et lâchera dans les champs l'oiseau vivant. C'est un rituel de purification d'une maladie terrible de l'époque. Et souvent la Bible compare la lèpre avec le péché. Nous comprenons par ce passage que nous avons vu que l'hysope est utilisé parmi d'autres substances pour la purification de lèpre dans l'Ancien Testament. Et il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Donc l'hysope, c'est une plante, une petite arbuste peut-être. Donc, les branches de cette plante est utilisée pour asperger sur le lèpre, cette eau purificatrice. Et aussi, je vais lire en Exode 12, 22, « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. » Donc, quand le peuple d'Israël devrait sortir, et Dieu, là, il ordonna de sacrifier un agneau pour le premier Pascha. Et aussi, nous lisons encore de cet hysope en Hébreux 9, vous pouvez prendre avec moi, Hébreux 9, Hébreux chapitre 9, verset 19 à 22. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, nous voyons qu'est-ce que David voit en utilisant cette phrase, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Alors nous comprenons que l'hysope est une plante utilisée dans la loi cérémoniale pour la purification du péché. Et chaque fois c'était l'aspersion, effusion du sang. Et pour quelle raison David demanda à Dieu de lui purifier avec l'hysope. Il demanda à Dieu de lui laver pour être plus blanc que la neige. Isaïe dit en 1er chapitre 2, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Ici, nous voyons le désir de David d'être pur devant Dieu. Et peut-être aujourd'hui, on peut imaginer avec beaucoup de choses chimiques, on arrive à délaver, décolorer les choses. Mais à l'époque, le pourpre et la cramoisie, c'est le contraire de couleur blanc. Donc, David, ici, quand il dit que « Lave-moi et je serai plus blanc et plus blanc que la neige. » Est-ce que c'est notre désir de sanctification quand on prie à Dieu? Est-ce qu'on demande que je voudrais être plus blanc que la neige, sans péché? La couleur n'a rien à voir dans cette histoire, mais seulement de haïr le péché, de désir d'être sans péché, sans iniquité, dans le fond de notre cœur. Il demande à Dieu de ne plus regarder son péché qu'il a commis. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Isaïe 43, 25. Et Dieu dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et pour l'amour de moi, c'est à cause de son nom. Dieu dit, pas parce que je n'ai pas envie de regarder, mais ça c'est le caractère de Dieu. Quand Dieu pardonne le péché, il ne veut pas garder le souvenir de nos péchés, de nos iniquités. Ça c'est la nature de Dieu. Mais parfois on peut penser le contraire. On peut penser le contraire. On pense que Dieu, il se souvient toujours, mais Dieu lui-même, il dit que j'ai pardonné ton péché et je ne souviendrai plus les péchés, les transgressions pour l'amour de moi. Parfois, c'est vrai que même si Dieu ne se rappelle plus de nos péchés, nous souvenons de nos péchés et nous ne nous pardonnons pas nous-mêmes. Et parfois, les gens, ils disent que mais non, je suis le plus grand pécheur. Je ne peux pas me pardonner moi-même. Mais Dieu, amen, il a pardonné nos péchés. Il a dit que j'ai mis ton péché derrière de moi. Je ne regarderai plus ton péché. Et c'est exactement ça que David il demande ici. Il demande à Dieu de ne plus regarder son péché qu'il a commis. C'est tellement affreux. David, il a honte de lui-même. David, il devrait haïr sa propre personne pour dire que « Seigneur, s'il te plaît, pardonne mon péché et ne plus regarder son péché qu'il a commis. » Et parfois, on peut chérir le péché et on garde quelque part dans le coin de notre cœur. Et c'est pour cette raison que nous revenons vers le même péché. Si nous haïssons le péché que nous avons commis, nous devrions absolument quitter ce péché. Et le péché ne devrait jamais, plus jamais revenir dans notre vie. Un enfant de Dieu doit s'appuyer sur la parole de Dieu, sur ce qu'il a dit et sur ce qu'il a promis. Et dans notre prière, c'est une consolation que nous avons, que Dieu il ne se souvient plus de nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Et David, il demande d'effacer toutes ces iniquités. Comme si que sur un tableau, tous les péchés étaient mentionnés et tout est effacé. Le tableau est vide. Et ensuite, nous voyons qu'il prie pour la restauration. Et une fois que nos péchés sont pardonnés, on a besoin d'être restaurés. Lui faire entendre la joie de l'allégresse. Et David a certainement beaucoup pleuré. Ça fait presque un an qu'il était dans le péché avec Bathsheba. Et quand il a sorti, quand l'enfant il était frappé, quand Nathan il a confronté David dans les yeux, David l'a accepté. Il a rendu compte de combien grand il était un pécheur. Et maintenant, il demande que Dieu lui demande à Dieu de lui faire entendre la joie et l'allégresse. Faire ses os brisés se réjouir. Et, quelque part dans le psaume, on dit que quand je... aussi, le psaume 32, ça va parallèle avec ce psaume. David, après le péché qu'il a commis, on peut penser qu'il a écrit ces deux psaumes. Et comment il décrit quand j'ai gardé mes péchés en moi, ça c'est une chose terrible. Pendant la grande crise, il y a 10 ans, dans le monde, aux États-Unis, j'ai oublié son nom, il était très très riche, un milliardaire, il a fait l'argent en arnaquant les gens. Donc, le fisc l'a pris cet homme, ils sont mis dans la prison. Il ne va jamais sortir. Il est assez âgé, mais il a une prison à vie. Mais je me souviens de ce qu'il a dit. Ça aurait été mieux si on m'a attrapé il y a beaucoup longtemps. Et ça, c'est l'état quand nos péchés sont découverts. Et quand on garde le péché, quand ce n'est pas confessé, ça peut briser notre vie et même notre corps peut être usé à cause de péchés non confessés. Et ensuite, il demande de créer en lui un cœur pur. Il demande un cœur pur. Mais il reconnaît que son cœur, il était taché du péché. Il était déformé à cause du péché. C'était pas le même cœur qu'il avait quand il chantait le beau cantique, le beau psaume. Son cœur, il était détruit à cause du le péché qu'il a commis. Mais Dieu, il dit en Ézéchiel 11, 19, « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de prière et je leur donnerai un cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Donc, David, quelque part, il s'appuie sur la parole de Dieu. Il demande avec un ardent désir que « Seigneur, enlève-moi de ce cœur que j'ai, le cœur qui pense des choses mauvaises, le cœur qui n'aime pas le prochain comme je devrais aimer. » C'est à cause de ce défaut que David a commis le péché d'adultère. Il n'a pas aimé son prochain. Il n'a pas aimé son serviteur. Il n'a pas aimé le soldat qui mettait sa vie en péril pour le roi, pour la nation. Il a convoité. David, le péché de David, souvent on voit comme le grand, comme adultère ou le meurtre. Mais David, il a brisé chacun de ses 10 commandements en commettant ce péché. Et David, ensuite, il demande de renouveler en lui un esprit bien disposé. Ça, on a besoin. Quand on est dans le cours de la restauration, pendant que Dieu nous restaure, on a besoin d'être renouvelé en lui un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé, un esprit qui veut obéir à la volonté de Dieu. Un esprit qui ne veut pas faire sa propre volonté, un esprit qui est obéissant. Et donc David il demande de renouveler en lui un esprit bien disposé. Et après, David il demande de ne pas le rejeter loin de sa face. Mais Dieu, il peut faire. Dieu le fait. Car Dieu ne peut même pas voir le péché. Et comment il peut voir un pécheur comme David? Comment il peut voir un pécheur comme nous? Et David, il plaide à Dieu de ne pas le rejeter loin de sa face. Et enfin, il demande de ne pas retirer son Esprit Saint. La dispensation de l'Ancien Testament, Dieu a donné son esprit à ses prophètes, à ses serviteurs, qui sont joués le rôle intermédiaire entre les hommes et lui, entre l'homme et Dieu. Et donc, Dieu il a donné le don de l'Esprit Saint. Et quand il désobéissait, comme c'est dans le cas de Saül, Dieu l'a retiré son esprit de lui. Et donc, David, il avait un très mauvais exemple devant lui de Saül, l'image de Saül. Donc, il savait ce qu'il arrivait à Saül. David craint de cette situation. Il demande, Seigneur, retire pas ton Esprit Saint de moi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le, nous qui vivons dans le temps de Nouvelle Alliance, de Nouveau Testament. L'Esprit Saint, il est donné à nous pour une fois et il demeure en nous. Il habite en nous. Il peut pas être retiré de nous. Mais on peut attrister le Saint-Esprit. Par les choses que nous faisons, par les choses que nous parlons, on peut attrister le Saint-Esprit, mais on ne peut pas perdre le Saint-Esprit. L'Esprit, il demeure en nous. À quelle grâce que nous avons que l'Esprit, il demeure en nous. Est-ce que nous sommes conscients de cette réalité que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, il habite en nous? L'Esprit de Dieu, il a fait un tabernacle en nous. C'est une merveille de lui rendre la joie de son salut. Et enfin, il demande de lui rendre la joie de son salut. Et chaque fois nous commettons un péché, nous pouvons pas avoir la même joie de salut que nous avons ou nous avions. Certainement, nous allons perdre la joie de notre salut. Nous perdons pas le salut. Et le fait que après que David eut si gravement péché dans l'affaire de la femme d'Uri, il ne dit pas « Rends-moi ton salut, mais rends-moi la joie de ton salut. » Donc le salut peut pas être ôté, le salut peut pas être perdu, mais la joie de salut on peut perdre si nous demeurons dans le péché, si nous demeurons dans le contre Dieu. Chaque fois qu'un croyant pêche, sa communion est interrompue et sa joie disparaît jusqu'à ce qu'il revienne au Père avec un cœur brisé et qu'il confesse son péché. Alors, s'il prend Dieu au mot, il sait qu'il est pardonné, car la parole déclare clairement que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Le fils prodigue, quand il est parti loin de son père, il n'a jamais perdu la relation avec son père. Il était loin de son père, mais il était toujours le fils de son père. Il était toujours le fils de son père. Donc, mais il n'a pas pu jouir la présence de son père, la relation qu'il avait avec son père. Et enfin, il dit qu'un esprit de bonne volonté le soutienne. David, il demande à Dieu qu'un esprit de bonne volonté le soutienne. Que qu'est-ce qu'on a on a besoin d'un esprit de bonne volonté. Un esprit de bonne volonté. Un esprit bien disposé pour obéir Dieu. Un esprit bien disposé pour haïr le péché, pour être loin de le péché. Et nous allons voir la dernière partie, le verset 13 à 17. Le verset 13 à 17. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Verset 16. Si tu eusses voulu des sacrifices, j'en t'aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir au holocauste. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Premièrement, elle vient vers Dieu pour le pardon. Deuxièmement, elle demande la restauration. Et troisièmement, il fait une promesse. Il fait des promesses à Dieu. Mais souvent, on peut venir pour le pardon. On peut être restauré. Après, on oublie. On ne demande pas ce que nous avons dit à notre Sauveur, à notre Dieu. David promet à Dieu qu'il enseignera les voies de Dieu à ceux qui les transgressent. David promet à Dieu qu'il enseignera les voies de Dieu à ceux qui les transgressent. Et parfois, nous arrivons à conduire quelqu'un ou consoler quelqu'un par la voie que... Parce que nous avons traversé cette voie. Nous avons connu cette situation de faiblesse. Et quand on... je pense que c'est Jacob... oui, à Jacques. Il dit que Élie était un homme comme nous. Faire de la même façon, faire de le même matériel. Hein, fabrique. Élie, il était comme nous. Et même Christ... Il a passé par la même voie, mais il était tenté dans toutes choses, mais il n'a jamais connu le péché. Et David promet à Dieu qu'il enseignera les voies de Dieu à ceux qui les transgressent. On n'a pas besoin de tous faire les bêtises pour comprendre c'est quoi des bêtises. Mais on peut apprendre avec les erreurs, avec les péchés que les autres ont commis. C'est pour notre avertissement. La parole, ça montre la véracité de la parole de Dieu, que Dieu, il a mis en clair le péché de David. Alors David, c'était un grand homme de Dieu qui a fait de grandes choses pour Dieu. Mais la parole nous dit que David, il était presque parfait en presque toutes choses, sauf dans le cas de la femme de Uri, l'Éthien. Et là, David dit qu'il enseignera les voies de Dieu à ceux qui la transgressent. Il dit que les pécheurs reviendront à Dieu. Les pécheurs reviendront à Dieu. Il est prêt à conduire les pécheurs vers Dieu. Vers Dieu. Si le Dieu de son salut va le délivrer de son culpabilité de sang versé et ouvrir ses lèvres. Et David, il a la culpabilité de sang versé, car il a tué Uri l'Éthien, le mari de Bathsheba. Et David, il demande d'effacer cette culpabilité de sang versé, et là, il peut parler. Tant que, je pense que le psaume 32, nous pouvons lire, 32, on va lire quelques versets. Heureux celui qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consommaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main apaisantissait sur moi. Ma vigueur était plus que chasseresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Regardez, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Donc, David il dit ici, si Dieu de son salut va le délivrer de son culpabilité, de son verset, et ouvrir ses lèvres, et dit que je célébrerai ta miséricorde. David il dit qu'il célébrera sa miséricorde, la miséricorde de Dieu. Qui peut célébrer la miséricorde de Dieu? Qui peut célébrer la grâce de Dieu? Sauf ceux qui sont goûtés la grâce de Dieu, qui sont expérimentés la miséricorde de Dieu. Et parfois, je demande si notre adoration ne sera pas encore plus belle si nous avons ce goût de miséricorde de Dieu, le goût de grâce de Dieu. Si tous nos péchés sont confessés, il dit qu'il célébrera sa miséricorde, il publiera sa justice. Même si nous avons passé par des choses très difficiles, même si nous étions châtiés pour nos péchés, est-ce que nous serons capables de dire que Dieu il était juste dans son châtiment? Et parfois, quand on prie ou on cherche de sortir d'une crise, de sortir de la crise que nous passons par, mais est-ce que pendant la tribulation, pendant le moment difficile, est-ce que nous cherchons la gloire de Dieu? Est-ce que nous cherchons à glorifier Dieu, même si je passe pendant un moment de difficulté? Est-ce que je cherche que Dieu soit glorifié, peu importe la situation, ma situation? Et il publiera sa justice. Sa bouche chantera sa louange. Sa bouche chantera sa louange, car il connaît ce que Dieu désire. Qu'est-ce que Dieu désire? Il désire ni holocauste, ni sacrifice. Sinon, il aurait offert. Mais Dieu ne méprise pas un cœur brisé et contrit. Dieu désire un cœur brisé et contrit. Est-ce que nous avons nos cœurs brisés devant Dieu? Est-ce que tous nos péchés sont confessés? Est-ce que nous sommes justes devant lui? Nous ne pouvons pas être justes devant le Dieu trois fois saint, mais nous sommes justes dans notre position en Jésus-Christ. C'est lui qui a payé pour nous. Et c'est pourquoi Dieu nous voit justes. Même si je me vois comme un pécheur, mais mon Dieu, il me voit juste à cause de son Fils. Et à la fin, il termine par une prière, versets 18 et 19. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Dit que Dieu fasse son bon plaisir à Sion. Que Dieu bâtit le mur de Jérusalem. Que Dieu agréa des sacrifices de justice, qu'on offrira de taureaux sur son autel. Le péché de, nous connaissons le péché de Achan a affecté tout le peuple d'Israël. Et le péché de David, le roi devrait être un homme exemplaire. Et parfois on pense qu'on commet un péché, on peut échapper tout seul. Il faut savoir que nos péchés affectent beaucoup d'autres personnes qu'on n'imagine même pas. Nos péchés, ça affecte notre entourage. Mon péché, il affecte ma famille. Il affecte ma femme. Il affecte mes enfants. Et il affecte mon église. Et quand David est là, commis le péché, et à un moment donné, Nathan, il dit que tu as fait tes ennemis blasphémer contre Dieu. Même les ennemis blasphémaient contre Dieu. Et à cause du péché d'Achan, un seul homme, tout le peuple d'Israël, le camp d'Israël était puni. Il n'a pas pu gagner la bataille. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. 1 Jean 1:8-10. Car tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:10-12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. On a lu sur le péché de David. Mais la parole nous dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On peut classifier les péchés en degrés. On peut dire qu'il y a des petits péchés, le grand péché. Mais devant Dieu, un péché est un péché. Nous ne devrions pas, on ne pouvons pas appeler par un autre nom péché. Devant Dieu, notre péché reste péché et nous restons pécheurs. Et quand Dieu nous révèle notre cœur, nous devrions aller vers Dieu pour demander pardon et pour plaider la restauration pour notre vie. On peut pas vivre avec le péché, loin de Dieu, pour toujours. Ce que désire Dieu est que la sagesse de la vérité descend au fond de notre cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Prions.